CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Bienvenue à ton émission du midi. Émission On en jase. Où on parle d'actualité, de politique. On analyse le tout pour toi. On regarde également les dossiers locaux. Plus en profondeur. On va d'ailleurs parler tout à l'heure avec Pierre-Paul Biron, journaliste au Palais de justice de Québec pour le Journal de Québec. On va revenir, entre autres, sur le procès de Mathieu Martel, cet entraîneur de cheerleading qui est accusé d'agression sexuelle, notamment de relations sexuelles complètes avec une jeune adolescente de 14 ans. Hier, il a dit elle n'avait pas 14 ans, elle avait 16 ans. On va parler de ça avec Pierre-Paul Biron. Et ce matin, c'est son contre-interrogatoire par la couronne. On va aussi revenir sur le chauffeur récidiviste Éric Légaré, qui s'est fait donner un permis de sortie après seulement quelques années en prison alors qu'il a tué 4 personnes. On s'en souvient, c'est un accident marquant sur l'autoroute Dufresne-Montmorency. Donc, on parle de tout ça avec Pierre-Paul Biron en termes de dossier local. Et en termes de dossier politique provincial, normalement, dans les prochaines minutes, Maïté Blanchette-Vézina va nous appeler. La nouvelle députée du Parti conservateur du Québec, elle va se présenter dans Lapeltrie et non dans Rimouski. Donc, on va évidemment questionner Maïté Blanchette-Vézina à cet effet-là. On va avoir le caucus avec Antonine Iaccarini. On va parler de deux gros sujets du jour, c'est-à-dire Michael Rousseau et son manque de français dans ses... dans ses excuses, dans ses paroles, dans ses discours envers les gens au Québec. Et on va aussi parler du cas de Julien Lacroix et de ce tribunal public auquel il fait signe. Pascal!
Oui, rapidement, breaking news, ça vient de sortir dans les 5 dernières minutes pendant qu'on a Antonine avec nous. C'est le fun aussi de le mentionner parce que je sais que les trois, on était fort préoccupés par les chauffeurs Inc., hein, les conducteurs de véhicules lourds qui ont causé des accidents. Puis on se demandait où sont les répercussions négatives de ça, où sont les accusations, pourquoi on ne les voit pas en justice. Pour l'accident mortel à Vallée-Jonction, on vient d'apprendre que le chauffeur du camion va faire face à la justice. Donc, c'est l'accident qui a causé la mort d'Alexandra Poulain en décembre 2024. Il a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec. La juge a accordé sa liberté en attendant la suite des procédures. Mossane Issamounoula, 40 ans, a été interrogé par les policiers dans la grande région de Montréal hier, puis a comparu rapidement aujourd'hui. Alors, mandat d'arrestation, 2 infractions alléguées, une de négligence criminelle causant la mort et une autre de conduite dangereuse causant la mort.
Antonine Iaccarini, ça va bien?
Oui.
Oui, Pascal CV aussi?
Très bien.
Excellent. Ça va rejoindre immédiatement la nouvelle députée du Parti conservateur du Québec. Elle est présentement députée du comté de Rimouski. Elle se présentera dans Lapeltrie aux prochaines élections provinciales. Maïté Blanchette-Vézina. Madame Blanchette-Vézina, merci pour votre présence à l'émission On en jase.
Ça me fait plaisir. Bonjour.
Bonjour. Madame Blanchette-Vézina, est-ce que vous êtes une opportuniste politique?
Si j'étais opportuniste, c'est sûr que je ne serais pas allée dans un parti qui n'a pas de député de 1 et qui est à 15 % dans les sondages. C'est par valeur, par conviction que j'ai choisi d'aller au Parti conservateur parce que je veux continuer de défendre les régions, défendre une meilleure efficacité de l'État, des services de santé, le privé en santé. Donc, c'est des choses qui étaient déjà dans la plateforme de la Coalition Avenir Québec à la base, mais qui n'a pas été suivie. Et moi, c'est ces valeurs-là qui me font aller au Parti conservateur.
Oui, je comprends tout ça, mais n'empêche qu'à Rimouski, à l'heure actuelle, le comté que vous représentez, le Parti conservateur, est 5e dans les sondages selon Québec 125, alors que dans Lapeltrie, il est premier. Donc, plusieurs personnes, dont moi, je ne le cacherai pas, voient de l'opportunisme politique. Qu'est-ce que vous me répondez?
Ben écoutez, moi, je veux que le Parti conservateur, on ait des députés, plusieurs députés à la prochaine élection. Et dès le départ, avec les discussions que j'avais eues avec Éric Duhaime, je lui mentionnais mon désir de me rapprocher de Québec. Ma famille est à Québec en grande partie. Là, donc, pour moi, c'était déjà dans l'idée de me rapprocher de Québec. Là, donc, pour moi, c'est vraiment pas de l'opportunisme. C'est plutôt par conviction et parce que je souhaite aussi qu'on ait plusieurs députés à la prochaine élection qui viennent du Parti conservateur. Alors, c'est certain que le Parti souhaite avoir des députés avec de l'expérience. J'ai de l'expérience comme ministre, comme député, comme mairesse. Et c'est la volonté là, de vouloir faire rentrer plusieurs députés à être un parti reconnu à l'Assemblée nationale après la prochaine élection.
Avez-vous négocié votre comté avec M. Duhaime pour avoir la Lapeltrie?
Non, pas du tout. En fait, c'est M. Duhaime qui me l'a proposé. Puis après réflexion, je me suis dit, ben c'est un beau défi. Puis moi, ben je souhaite vraiment commencer à aller à la rencontre des gens. Je suis quelqu'un qui est proche du terrain. C'est ce que je vais commencer à faire déjà, aller dans la pelleterie, parce que je souhaite vraiment aller à la rencontre des gens puis entendre ce qu'ils ont à dire à Val-Bélair, à l'ancienne Lorette. D'ailleurs, ce soir, là, il y a une rencontre militante au club de golf de Lorette, là, donc on va commencer le travail. Puis moi, ben c'est ça, c'est vraiment, je veux continuer d'être la députée que les gens me connaissent, c'est-à-dire qui veut défendre avec fougue les dossiers, les intérêts des citoyens au Parti conservateur. Puis je pense que les idées conservatrices, elles doivent être entendues d'une manière forte à l'Assemblée nationale, puis on va y travailler pour la prochaine élection.
Madame Blanchette-Vézina, il y en a qui sont surpris parce qu'ils vous connaissent un peu plus comme une mairesse de gauche, et là, vous vous liez à un parti conservateur, vous allez avec Éric Duhaime. Est-ce qu'on peut expliquer ça?
Ben, en fait, ce que les gens pensent de la gauche, c'est mes idées de gauche, c'est ce que j'avais fait en lien avec l'exploitation des hydrocarbures. Puis sur ce fait-là, vous avez raison, là, j'avais mentionné que je ne souhaitais pas qu'il y ait d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la municipalité de Sainte-Luce alors que j'étais mairesse. Mais rappelons que le contexte était très différent. Et moi, j'ai évolué là, comme d'autres aujourd'hui. Puis on peut penser à Christine Fréchette, mais Mathieu Bock-Côté également. Là, je pense que le contexte, il a profondément changé. La technologie aussi a changé. Ça, c'est rassurant. Moi, ce que j'ai vu comme ministre des Ressources naturelles, c'est des technologies qui permettent de recycler l'eau et qui ont moins d'impact sur l'environnement. C'est sûr que d'exploiter des hydrocarbures, ça reste que ça a de l'impact. Mais on est dépendant en ce moment et on le vit avec la guerre en Iran. Celle en Ukraine aussi qui avait eu des effets. Le fait d'être dépendant du gaz et du pétrole, de l'importation du gaz et du pétrole, ben ça nous rend vulnérables. Et aujourd'hui, comme société québécoise, là, on n'a pas le luxe non plus de ne pas exploiter nos ressources. Puis soyons clairs, ça ne touchait que les hydrocarbures, parce que moi j'ai toujours été pour l'exploitation forestière, parce que c'est important pour les régions. Puis on des minéraux critiques stratégiques aussi, l'exploitation de nos ressources, autres que le gaz et le pétrole. Donc pour moi, il y a une évolution des idées en termes d'exploitation des hydrocarbures et du gaz, parce que on en a besoin et on est dépendant et le contexte a profondément changé.
Vous avez mentionné que vous voulez commencer tout de suite à faire du terrain dans votre peut-être future circonscription. Qu'est-ce qui est prévu en termes de... Où allez-vous vivre? Est-ce que vous allez déménager à Québec bientôt? Est-ce que vous voulez partager votre vie entre les deux villes? Comment vous voyez ça pour la suite?
Bien, en fait, je suis en train de magasiner une résidence secondaire pour l'instant, là, mais certainement que c'est dans mes volontés de que tout le monde suive puis vienne avec moi à Québec. Mais j'ai déjà un appartement ici, j'y ai habité 10 ans, je connais bien, puis j'ai étudié à Québec, je connais bien là la région. Puis bien sûr, là, c'est ça, ma volonté, c'est de venir m'installer, de me rapprocher de ma famille. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Et je suis en démarche en ce moment.
Hier, on avait plusieurs personnes qui nous textaient au 418-971-1021 qui ont de la parenté à Rimouski, que les gens de Rimouski se disaient très fâchés après vous d'avoir décidé de les laisser tomber pour vous emmener à Québec et ne croient pas que vous allez en prendre soin d'ici la fin de votre mandat. Vous répondez quoi à ces citoyens-là qui se sentent trahis par vous, par vos paroles?
Ben en fait, je veux les rassurer. Là, je continue de travailler à Rimouski. Puis tu sais, comme je vous dis, je vais commencer à aller à la rencontre des citoyens de la pelleterie, mais ma priorité demeure d'être députée de Rimouski là, jusqu'à la fin du mandat. D'ailleurs, aujourd'hui, deux pétitions que j'ai déposées en lien avec des dossiers de Rimouski. Demain, ma question va toucher Rimouski encore. Tu sais, j'ai des questions à l'Assemblée nationale. Donc, je continue mon travail de députée de la circonscription de Rimouski. Et j'ai des rencontres avec des partenaires. Tu sais, je continue à être à Rimouski là, jusqu'à la fin de la session puis la fin du mandat.
Il y a des gens qui rapportaient le fait que vos valeurs ont mené au fait que ça a été super long avant de faire cette annonce-là aux côtés d'Éric Duhaime, qu'il y a des valeurs entre vous et M. Duhaime qui ne correspondaient pas. Quelles sont-elles?
Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, parce qu'en fait, nous, on a appris à se connaître. Là. L'idée, c'était de s'assurer que le Parti conservateur rejoignait les idées que j'avais aussi en termes de décentralisation des décisions, en termes de réduction de la taille de l'État central. Ce qu'on connaît dans les régions du Québec du Parti conservateur, c'est pas nécessairement ce que c'est réellement. Puis moi, j'ai appris à découvrir le parti. J'étais aussi échaudée là, d'avoir fait confiance à la CAQ et d'avoir été trahie, d'avoir senti qu'on ne m'avait pas dit la vérité. Pour moi, c'était si on n'a pas réalisé ce qu'on avait dit qu'on allait faire aux citoyens, c'est sûr que de me rembarquer dans un parti, il fallait que je m'assure, comme je l'avais dit, que c'était un parti qui réellement voulait décentraliser les décisions, vouloir être présent sur pour les citoyens en termes aussi d'efficacité des services. Donc, c'est ce temps-là qu'on a pris. Puis je pense que M. Duhaime ne s'en est pas caché. Là, il souhaitait aussi, de son côté, qu'on prenne le temps de s'assurer que ça pouvait correspondre aussi avec les militants de son parti. Donc, moi, c'est tout récent. J'étais même pas certaine de me représenter jusqu'à il y a quelques semaines parce que c'est difficile quand même la vie publique avec des enfants comme mère de famille, mais je veux servir encore les citoyens, puis je veux encore améliorer le Québec, parce que si on fait de la politique, c'est aussi parce qu'on veut améliorer le sort des gens, puis le Québec, il a besoin de grands changements, puis je suis convaincue que ça va venir du Parti conservateur.
Vous l'avez dit, vous voulez défendre l'offre politique du Parti conservateur, vous voulez proposer des changements. Vous avez mentionné tantôt notamment la place du privé en santé. La santé, ça demeure un enjeu hyper important qui va certainement prendre la place dans la prochaine campagne électorale. C'est quoi, outre le privé en santé, c'est quoi la position et la vision du Parti conservateur en matière de santé, notamment l'agence qui a été créée, la réforme du B? Est-ce qu'on met tout ça à terre? Est-ce qu'on continue dans la même voie? Est-ce que Santé Québec sera aboli, maintenu? Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, bien, ce que le Parti conservateur dit, c'est qu'il faut arrêter de décentraliser puis mettre de la concurrence du privé en santé, puis ça, bien, j'y adhère. C'était d'ailleurs ce que la CAQ proposait. Là, elle a centralisé avec Santé Québec, puis on voit que ça a des effets plutôt négatifs, en fait, dans les services en région.
Mais donc, c'est comment on peut décentraliser concrètement?
Ben en fait, c'est sûr que l'agence Santé Québec ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle devrait faire, c'est-à-dire offrir des services partout sur le territoire québécois qui sont de qualité. Donc cette centralisation-là, je pense qu'on a vu là que ça ne fonctionnait pas. Ceci étant dit, je sais qu'on est en train de travailler sur une plateforme. Fait que sur plus de détails, il est certain qu'on va décliner, plusieurs de nos engagements dans les prochains mois, prochaines semaines, en fait, avec la campagne électorale.
Vous allez vous présenter dans la région de Québec. Outre le tramway, le troisième lien, qui sont des débats sans cesse depuis une dizaine d'années, quelles sont les priorités selon vous pour la Capitale-Nationale?
Ah ben, on parlait de santé, vous l'avez dit, troisième lien. Effectivement, dans la mobilité, tu sais, moi, j'ai parlé avec le conseiller qui est chef de l'opposition officielle à Québec, qui sera là d'ailleurs pour l'événement de ce soir pour appuyer ma candidature. Il y a beaucoup de familles qui viennent dans la pelleterie, beaucoup de familles qui habitent à Québec. La mobilité, c'est un enjeu. Au-delà du tramway, je pense que le tramway, ça n'apportera pas la fluidité dont les citoyens ont besoin là, dans le coin de Val-Bélair, notamment, Fossambeau, Sainte-Catherine. Donc, c'est difficile. Là. Il y a comme une affluence de construction sans que les routes aient suivi. Fait que ça demeure une des grandes priorités.
Donc,
pour
c'est
moi,
de bâtir des autoroutes plus larges?
Ben effectivement, ça peut faire partie de ça. Moi, dans les prochains jours, je vais aller à la rencontre des citoyens. Mais effectivement, on m'en parle et on m'en a déjà parlé là, de cet aspect de puis, difficulté de fluidité et d'école également.
Puis outre la mobilité, justement, quels sont les autres enjeux pour la Capitale-Nationale?
Ben plusieurs éléments. On parle beaucoup, énormément du tramway en ce moment. Et d'ailleurs, je vais être à la manifestation en fin de semaine. Je pense que c'est un projet du maire. Et qui suscite beaucoup de questionnements. Fait que dans les prochains jours, là, comme je vous dis, je vais aller à la rencontre des citoyens pour m'assurer aussi d'entendre ce que les gens ont à dire à propos des besoins. On peut parler d'immigration aussi. On a présenté un projet de loi, Éric Duhaime et moi, pour décentraliser les décisions. Ça veut dire en immigration. Ça veut aussi dire que la gestion, au lieu qu'elle se fasse de manière centrale à Québec, ben, elle va se faire par exemple, la ville de Québec, mais l'ensemble de la capitale nationale pour s'assurer qu'on respecte la capacité d'accueil, mais aussi les besoins qui sont présents en termes d'entreprise. Donc, c'est pour mieux arrimer ces décisions-là. Et ça, les citoyens le demandent. Il faut respecter notre capacité d'accueil, mais il faut aussi s'assurer qu'on puisse continuer d'avoir une économie qui fonctionne. Le vieillissement de la population, là, c'est maintenant. Les services sont au point de rupture dans certaines en santé notamment. Si on n'a pas de gens qui travaillent dans nos entreprises, qui payent des taxes, des impôts, comment on va faire pour continuer à soutenir le modèle québécois? Donc, je sais qu'il y a plusieurs autres enjeux et je vais continuer d'aller, comme je vous dis, à la rencontre des citoyens pour m'assurer de bien les représenter dans les prochaines semaines.
Madame Blanchette-Vézina, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé à l'émission On en jase et bonne continuité dans le parti d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir. Maïté Blanchette-Vézina, nouvelle députée pour le Parti conservateur du Québec. Elle se présentera dans La Pelleterie, un comté dans la capitale nationale. J'ai répété à deux reprises, outre la mobilité, mais on revient toujours au « Ah, pas de tramway. Ah, je vais aller sur René Lévesque, je vais dire que je veux encore les arbres. Mm-hmm. » On est très dans le superficiel, encore une fois.
Bien, avoir à prendre connaissance, j'imagine, mais c'est sûr qu'on a des questions, parce que quand t'as un candidat ou une candidate qui est parachuté dans une région, bien, c'est sûr qu'on a un doute sur la connaissance et la sensibilité pointue des enjeux. Bon, maintenant, c'est pas la première personne qui va se présenter dans une autre région. Tu sais, pour ce qui est de déménager ici, puis de gérer sa vie en conséquence, puis comment elle va partager entre Rimouski puis Québec, bien, son avantage quand même, c'est que l'Assemblée nationale est à Québec.
C'est clair.
Elle partage déjà sa vie entre Québec et Rimouski. Donc, à mon avis, ça se fait. Par contre, du point de vue des contorsions idéologiques, c'est plus cet aspect-là, moi, qui me
ouais, d'ailleurs, c'est venu par texto. Et, écrivez-nous comment vous avez trouvé l'entrevue avec peut-être une future députée de la capitale nationale, Maïté Blanchette-Vézina. Écrivez-nous au 418-971-1021. Il y en a plusieurs qui ont écrit, là, hey, elle a eu sa carte de QS, là, puis elle est rendue au Parti conservateur. Là. T'sais, c'est classe, une opportuniste.
Oui, puis pour vrai, je fais partie des gens qui ont une certaine tolérance face aux transfuges,
moi aussi,
à l'évolution des idées, c'est bien correct. Mais disons que dans ce cas-ci, je pense qu'on est en droit de se poser certaines questions sur ses valeurs et sur la solidité de ses valeurs. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand il y a une historique de « on change d'idée souvent », ben après ça, quand on déclare quelque chose et qu'on promet des choses, qu'on dit des choses aux citoyens, peut-être que des fois, le niveau de confiance peut être un petit peu moins élevé.
L'authenticité aussi. Hier, j'avais une discussion avec Jeff là-dessus. Antonine, t'étais partie. Puis ça nous permet de la poser aujourd'hui. En tant qu'analyste politique, des gens qui vont se faire élire, par exemple, dans la Pelleterie, où on voit qu'un parti est en avance, où les concurrents, les compétiteurs politiques, tiens, les adversaires ne sont pas aussi forts que cette personnalité-là. Est-ce qu'on considère à l'Assemblée nationale qu'ils sont des politiciens ancrés, que réellement la population les a voulus? Est-ce qu'on fait une différence entre un politicien qui a vraiment été élu avec peut-être, tu comprends où je m'en vais, avec peut-être plus de gens qui l'appuyaient sincèrement et non que c'est un concours de circonstances? Ou...
Oui, on fait une différence entre les deux dans le sens qu'il y a des députés qui sont très issus du terrain, enracinés. T'sais, c'est sûr que le député qui me vient en tête, c'est Pascal Bérubé dans Matane. C'est un député. Il est député de Matane avant tout. Il a été ministre aussi, mais c'est comme la cerise sur le sundae pour lui. Alors qu'il y a des gens, par exemple, plein de caquistes qui se sont présentés en 2022 dans des comtés qui étaient sûrs de remporter. C'était pas, Pierre Fitzgibbon, c'était pas le député de Terrebonne. C'était très secondaire pour lui, Terrebonne.
Wow, en effet. T'es plus, il était allé justement en politique pour être super ministre de l'économie et de l'énergie. On verra comment ça va se placer pour Maïté Blanchette-Vézina. Chose certaine, au 418-971-1021 présentement, vous n'êtes vraiment pas en faveur de sa candidature dans la circonscription de La Pelleterie. La Pelleterie, je le rappelle, sur Québec 125, qui est à 31% conservateur et 27% libéral. Donc, ça va être très serré, selon moi. Et d'ailleurs, plus tard à l'émission, Lambert Drainville va nous présenter des extraits de son entretien qu'il a eu avec Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec. Dans un instant, on va faire le caucus avec Antonine Iacarini à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On va entre autres parler de Michael Rousseau, ce PDG d'Air Canada qui en 2021 avait dit « Oui, oui, inquiétez-vous pas, je vais l'apprendre le français. » Puis qu'en 2026, il est juste capable de dire « Allô et merci ».
Bonjour.
Bonjour, oui, c'est ça, exactement. Et on va aussi revenir sur Julien Lacroix qui décide de quitter justement l'humour en raison là, du tribunal public. C'est ce qu'on jase dans un instant à On en jase sur Boulevard 102.1. On en jase.